à Chicago où il va être question de politique américaine avec David Axelrod. David Axelrod qui a été donc l'un des artisans de la victoire de Barack Obama. J'ai rencontré le professeur Axelrod à son bureau de Chicago University où il dirige, disons, l'équivalent d'un Sciences Po au cœur donc de la ville de Chicago. Dans ce campus, un campus très agréable, largement arboré avec de petites maisons abritant les bâtiments de la faculté. Dans le bureau d'Axelrod, une collection complète de photos d'Obama. Obama qui a remercié Axelrod lors du premier discours après son élection. C'est l'un des rares personnages qu'Obama a remercié. Mais aujourd'hui, le président ne s'appelle plus Barack Obama, il s'appelle Donald Trump.
Les matins de France Culture, en direct de Chicago, jusqu'à 9h.
Vous savez, notre nouveau président n'est pas arrivé en fonction avec une vue mondiale vraiment développée ou alors une connaissance profonde de l'histoire. Et donc, beaucoup de cela, en fait, j'ai l'impression que c'est un peu instantané. Bien entendu, America First, donc Amérique en premier, c'est une espèce de philosophie, la notion que l'Amérique devrait protéger les intérêts américains. Et il semble se manifester en termes de moins de luttes mondiales, nous nous retirons des accords mondiaux. C'est plutôt une politique étrangère ad hoc.
C'est une présidence qui est déjà marquée par les scandales. Est-ce que vous pensez que les liens supposés, prouvés de Donald Trump et de la Russie peuvent peser sur l'opinion publique américaine?
Eh bien, il y a un nuage au-dessus de la présidence. Il n'y a pas de question dans notre esprit, en fait. De nombreux Américains et certainement dans l'esprit des politiciens, des décideurs, des renseignements, la Russie a agi de façon agressive pour entrer dans notre démocratie. Le président a résisté à cela, mais la façon dont cela va impacter l'opinion, je pense que c'est une chose plus difficile à dire. Le président a une base très engagée. En fait, il avait dit une fois qu'il pouvait se tenir sur la 5e avenue et tirer sur quelqu'un, et ses supporters le soutiendraient. En fait, il y a une certaine part de vérité là-dedans. Il a des supporters à cœur qui sont bien engagés, et je ne pense pas que la question russe veuille signifier beaucoup. Et en général, les Américains ont tendance à se concentrer sur les choses qui ont un impact sur leur existence. Je pense qu'il y a des implications sérieuses, graves, potentiellement, en ce qui concerne cette enquête russe. Mais les implications politiques de cela sont moins claires pour l'instant. Et je pense qu'il en faudra beaucoup pour qu'il y ait des procédures d'impeachment. Maintenant, parce qu'il y a une telle polarisation en fonction des partis politiques, les républicains contrôlent le Congrès et ce serait à eux d'initier des procédures d'impeachment. Et donc, sauf si l'on découvre des crimes, des délits par les procureurs, mon hypothèse est que le président servira tout son mandat.
Quels sont les dégâts réels, selon vous, de Donald Trump sur le gouvernement américain, sur la manière dont l'État aujourd'hui est géré, David Axelrod?
Eh bien, la qualité de gouvernement maintenant, je pense que cela sera débattu parmi ses supporters en utilisant l'autorité exécutive dont il dispose. Il apporte une différence profonde et il le fait avec les pouvoirs dont il dispose en tournant le dos à diverses politiques sur l'environnement, des politiques liées au système judiciaire et ainsi de suite. Mais en termes d'être en mesure d'avoir un programme législatif et de le faire passer au Congrès, il y a des problèmes réels. Et donc, je ne pense pas que qui que ce soit qui le note de façon objective en ce qui concerne le gouvernement, bien sûr, leur donnerait à ce gouvernement une note très élevée. Le président Trump a très peu de connaissances du gouvernement ainsi que l'équipe qui l'entoure. Il y a eu beaucoup d'erreurs au cours des 9 premiers mois. Et donc, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que notre système, comme le vôtre, est basé sur la force de nos institutions démocratiques. Le président a été élu en fait en attaquant ces institutions, les critiquant, et il continue à le faire. Même en tant que président, il attaque les tribunaux, le Congrès, les médias, accusant ses prédécesseurs d'avoir établi des écoutes illégales, et ça a un effet corrosif. Et c'est une inquiétude bien plus grande pour moi que toutes les politiques.
C'est de l'incompétence, de la folie, ou c'est une stratégie?
Eh bien, je pense qu'il y a un peu de tout. Je ne pense pas qu'il soit particulièrement compétent tant que gérant du gouvernement, et nous avons vu beaucoup de preuves de cela. Je pense qu'il est impulsif, et parfois les choses qu'il fait, en fait, sont des erreurs personnelles. La meilleure chose pour faire progresser l'Amérique et l'humanité serait généralement de retirer le président et de le séparer de ses possessions, de façon à ce qu'il ne puisse plus tweeter chaque impulsion qui lui passe par la tête, mais je ne pense pas qu'on devrait minimiser son génie pour utiliser les divisions culturelles dans notre société. Il a un instinct extraordinaire pour cela. Et donc, qu'il s'agisse de race, de classe, il parle une langue qui résonne auprès de sa base, et cela a eu un impact négatif pour le pays. Et en fait, vous voulez que le président des États-Unis unisse le pays. Et il a des avantages politiques à la diviser de façon régulière.
David Axelrod, vous avez été l'un des conseillers les plus proches de Barack Obama. Comment expliquez-vous le fait que ce pays soit passé de Barack Obama à Donald Trump?
Eh bien, nous avons eu des divisions profondes dans notre pays depuis longtemps. Il y a certaines divisions, la race est l'une d'entre elles. N'oubliez pas une chose, Obama a eu une grande victoire en 2008, encore une fois en 2012. Mais il y a eu un peu plus de 51% des votes à chaque fois. Nous sommes un pays divisé, nous sommes un pays polarisé. Je pense que vous pouvez mettre trop sur la division, enfin le fossé entre l'Amérique qui a élu Trump et l'Amérique qui a élu Obama. Mais j'aimerais dire cela, l'énergie de la campagne Obama en 2008 était une énergie très positive, mais également il s'agissait de changer le statu quo. En fait, c'est une accusation contre Washington, la politique de Washington. Il y a une maladie fondamentale dans le pays, un sentiment fondamental que Washington, bien entendu, est un féodé aux intérêts spéciaux, que Washington est trop concerné par les intérêts des politiciens et non pas du pays lui-même et des Américains de tous les jours. C'est ce qui avait permis d'élire Obama et c'est ce qui a permis d'élire Trump également.
Est-ce que c'est un démenti à tout ce que la science politique, la communication politique apprend, puisque le pays était polarisé sous Bush, mais Bush était un politicien beaucoup plus classique. Donc, est-ce que ça veut dire que les sciences politiques ont une mauvaise représentation de ce qu'il faut faire pour être élu, David Axelrod, ou bien est-ce que c'est un changement d'air et à partir de maintenant, eh bien finalement, n'importe qui ou presque pourrait devenir président des États-Unis?
Oui, c'est tentant de tirer cette conclusion. Comme j'ai dit auparavant, Donald Trump manque peut-être de profondeur en termes de compréhension dans un certain nombre de sujets et en termes d'histoire, mais il comprend très bien l'environnement des médias modernes. Son premier point de vue qui lui a permis d'être la personne nominée par le parti est que si vous êtes prêt à dire des choses provocantes, outrageuses, vous allez recevoir beaucoup de couverture médiatique et il a dominé la couverture médiatique de la campagne. Deuxièmement, il a compris que si vous avez une base politique et vous pouvez l'enthousiasmer dans un processus partisan, vous pouvez émerger comme le candidat de votre parti. Je crois qu'il y a une nature cyclique dans ces choses, donc je ne pense pas qu'un Donald Trump amène un autre Donald Trump. Je pense qu'il va causer des réactions et le candidat suivant qui va gagner sera une figure moins divisive. J'ai beaucoup de respect pour George W. Bush. Je ne suis pas d'accord avec lui sur certains sujets, mais il nous a montré beaucoup de générosité après qu'Obama ait été élu et lors de la transition. Mais il était considéré aussi comme quelqu'un qui apportait la division. Et Obama a été élu en partie parce qu'il était considéré comme quelqu'un qui allait unifier les choses. Le pays a tendance à faire ça. Nous n'élisons jamais la réplique de ce que nous avons eu. En fait, nous élisons le remède. Donc, si nous extrapolons à partir de l'élection de Trump, je peux dire que le prochain président devra se conduire de la façon dont Trump se conduit.
Quelle est la responsabilité des médias dans à la fois la manière dont Barack Obama a été jugé et dont Trump a été élu David Axelrod?
Je pense que les médias jouent un rôle énorme. L'environnement médiatique a changé de façon spectaculaire du fait de la prolifération de sources de nouvelles, d'informations. Et de façon croissante, nous vivons dans un environnement qui permet aux gens de vivre dans une réalité virtuelle, des mondes où chacun partage ses opinions et chacun qui est à l'extérieur de ce silo est considéré comme un extraterrestre. Et donc, cela rend les choses beaucoup plus difficiles. Trump a vu les médias comme une institution contre laquelle il pourrait s'organiser. Ce qui est ironique, c'est qu'il a utilisé les médias de façon plus efficace que tout autre candidat, même lorsqu'il attaquait les médias comme une force vraiment négative dans sa campagne populiste.
Il y a quand même quelque chose qui a beaucoup changé dans les médias, c'est la manière dont Internet pèse d'un poids différent. Est-ce que vous pensez que ça, c'est une vraie rupture dans la manière dont la politique va se vivre, David Axelrod?
C'est un challenge, en fait. C'est une difficulté que nous ayons cet environnement médiatique où les gens puissent s'enfermer, en fait, dans une espèce de leur monde médiatique et choisir des sources médiatiques qui confortent leur point de vue au lieu de les informer. D'informer leur point de vue. Et ces environnements, comme nous l'avons vu, peuvent être manipulés. Nous n'avons pas véritablement compris ce que la Russie a fait, par exemple, en termes de promotion de fausses histoires, de fake news qui ont proliféré parmi des millions d'Américains qui les croyaient. Vous avez déjà sans doute vu, nous avons eu un incident très peu de temps avant l'élection, une fausse histoire est circulée que Hillary Clinton avait une espèce de trafic sexuel d'enfants à partir d'une pizzeria. Ça a l'air bizarre, mais malgré cela, après l'élection, certains gens jeunes sont venus à Washington avec des armes et ils voulaient éliminer cette espèce de réseau de prostitution. Et donc, cette histoire a circulé. Je pense que 2,5 millions de personnes ont téléchargé cette histoire. Donc, cela vous dit comment il y a un manque de régulation, en fait, le danger de cet environnement. Et donc, c'est une difficulté, non pas pour les politiciens américains, mais les politiciens français et les politiciens partout dans le monde. Il va falloir accepter cela et savoir comment gérer.
Quel effet ça vous fait, David Axelrod, quand vous voyez l'Obamacare, qui a été l'un des chantiers auxquels vous avez directement participé? Qu'est-ce que ça vous fait lorsque vous le voyez démoli ou en tout cas critiqué, bref,
Tout d'abord, souvent on me pose cette question à propos de l'héritage d'Obama. Est-ce que vous êtes inquiet à ce propos? Non, en fait, je ne m'inquiète pas à ce propos. En fait, la place de Barack Obama dans l'histoire est bien sécurisée et on s'en rappellera de façon positive en tant que président. Et ses succès laisseront de bons souvenirs. Ce qui me gêne, c'est que nous avions avant l'ACA, donc l'Affordable Care Act, nous avions un système médical qui ne fonctionnait pas du tout. Chaque année, il y avait des millions d'Américains en plus qui n'étaient pas couverts. Si vous aviez une maladie grave, souvent, il y avait une certaine discrimination contre vous. Mais je pense que pour des raisons politiques, cette administration, donc l'administration actuelle, veut absolument rejeter ce programme. Et encore une fois, il est en train de semer le chaos dans la vie de nombreuses personnes. Et pour moi, c'est vraiment gênant.
Vous qui êtes enfant d'immigrés et venant d'Europe de l'Est, David Axelrod, quel sentiment avez-vous par rapport à ce discours anti-immigration encore plus fort depuis l'attentat de New York? Quel est votre sentiment?
Oui, je suis fils d'immigrant. Mon père est venu des États-Unis lorsqu'il avait 12 ans. Une génération plus tard, j'étais conseiller senior au président des États-Unis, donc je suis profondément reconnaissant à ce pays et j'y crois profondément. Et je pense que c'est un pays qui est plus fort et meilleur du fait de notre volonté, en fait, d'accepter les réfugiés du monde entier qui vont renforcer ce pays. En vérité, les immigrants ont construit, bâti ce pays. Si nous voulons être en compétition au XXIe siècle, il faudra avoir des immigrants qui vont nous y aider. Et je pense que les difficultés, et vous, en Europe, vous les comprenez même plus, les anxiétés, les peurs des migrants, et de la migration de masse, donc qu'ils ont créée, il n'y aurait pas de plus grande victoire pour ceux qui veulent du mal aux États-Unis que de faire en sorte que nous fermions nos frontières et que nous oublions notre acceptation historique des gens qui viennent du monde entier.
Mais est-ce que vous pensez que ce sont des menaces en l'air ou est-ce que vous pensez que Donald Trump a véritablement la possibilité de faire changer les choses, que les États-Unis ne soient plus un pays d'immigration?
Comme vous pouvez voir, il y a une résistance à certains des éléments les plus durs de sa démarche. Les tribunaux l'ont empêché de faire certaines choses. Le Congrès a été plutôt réticent en ce qui concerne certaines des choses qu'il voulait réaliser.
Mais
maintenant, en ce qui concerne sa base politique, il tira profit en fait d'efforts de sa part de continuer à pousser les choses. Il a réussi aussi à pousser une partie des réfugiés et il y a une limite en tout cas à ce que le pays va accepter. Il va y avoir un impact, que ce soit une condition permanente maintenant. J'ai des doutes réels à ce sujet. Je pense que cette politique ne sera pas la politique des États-Unis pour toujours, mais il va faire ce qu'il peut parce que, bien entendu, il voit des avantages politiques à pousser cette politique au cours des 4 prochaines années.
L'an prochain, il y a les élections de mi-mandat, David Axelrod. Est-ce que Donald Trump peut les gagner?
Les élections de mi-mandat vont être une grosse tâche. L'histoire des élections de mi-mandat est que le parti politique opposé par rapport au président en place a tendance à bien s'en tirer, surtout lorsque le président n'est pas populaire. L'histoire nous suggère peut-être qu'il risque de souffrir de grosses pertes. Peut-être que la Chambre des représentants pourrait passer sous le contrôle des démocrates. Le Sénat, pour des raisons structurelles, seulement un tiers des sièges au Sénat vont être réélus. Donc, pour l'instant, c'est en faveur des Républicains, nous allons voir.
Mais
ça m'inquiéterait si j'étais là en ce qui concerne le contrôle de la Maison-Blanche en 2018.
Deux questions pour conclure, David Axelrod. La première, est-ce que vous voyez des personnes parmi les démocrates qui pourraient être candidat aux prochaines présidentielles américaines?
Bien entendu, il y a beaucoup de candidats. On n'en manque pas. J'ai l'impression que chaque démocrate connu et même peu connu pense à se présenter en 2020. Nous pourrions avoir une compétition assez robuste. Mais je pense qu'il est trop tôt pour se prononcer et dire qui va émerger du peloton. Le vice-président Biden semble être songé à se présenter. Peut-être qu'il aura de bons résultats. Bernie Sanders aura de bons résultats. Elizabeth Warren, sans doute. C'est une sénateur qui est populaire auprès de la gauche populiste, mais je ne sais pas comment le processus va se dérouler. Je peux vous dire que 5 ans avant Barack Obama, avant qu'il soit élu président, vous pourriez arrêter 100 personnes dans la rue, dans la plupart des villes américaines, et aucune d'entre elles ne pouvait reconnaître qui c'était. Peut-être que nous ne pouvons pas savoir quel est le nom du prochain nominé.
Un milliardaire, on entend beaucoup parler en France, David Axelrod, de Mark Zuckerberg. Est-ce que c'est possible, le patron de Facebook?
Il y a plusieurs milliardaires dont le nom a été mentionné. Trump a rendu la chose plausible. Il a fait une route plausible pour la présidence, Mark Zuckerberg, bien entendu. Facebook a des difficultés maintenant qui doivent le concerner, il est aussi assez jeune. Il y en a d'autres. Mark Cuban, c'est un autre Américain, très riche, qui a parlé de se présenter, Howard Schultz, qui est le propriétaire de Starbucks, a été mentionné également. Je ne sais pas. Ce serait intéressant de voir si la route pour un milliardaire, la voie pour un milliardaire non politicien, serait attrayante en 2020, après l'expérience de Trump.
Une dernière question. Qu'est-ce que vous pensez du président français d'Emmanuel Macron, David Axelrod?
Je pense que c'est l'une des personnalités les plus intrigantes sur la scène mondiale. Il y a un manque de leadership qu'il essaye de remplir, en fait. Angela Merkel a ses propres difficultés en Allemagne maintenant, et l'Europe, au milieu d'un flux politique. Et nous avons ce jeune leader dynamique qui, évidemment, veut jouer un rôle important. La question se pose maintenant, comment va-t-il faire arriver le changement? Comment est-ce que cela sera reçu? Une partie, en fait, c'est quelqu'un qui a beaucoup de confiance en lui-même. Mais ces postes ont une façon de vous faire ressentir une certaine humilité.
Quel effet ça vous fait que Donald Trump, comme Emmanuel Macron, il y a quelque temps, était strictement inconnu, en tout cas comme homme politique?
La différence entre les deux, entre Macron et Trump, c'est que Trump était véritablement quelqu'un de l'extérieur. Il ne faisait pas partie des milieux politiques. Les élites le dédaignaient. En ce qui concerne l'histoire de Macron, maintenant, il est venu de l'intérieur, mais en fait, il a fait campagne en tant que quelqu'un de l'extérieur, ce qui était une façon très intelligente d'être élu et de faire campagne. J'admire ses talents politiques et j'admire ses compétences, en fait, lorsqu'il a fait cela en tant qu'homme relativement jeune. Ce que je pense, c'est que cela montre, ces deux élections montrent qu'il y a un soupçon fondamental, une colère fondamentale envers les politiciens établis et la politique en place, les politiques en place. Et maintenant, le truc pour les deux, c'est qu'une fois que vous contrôlez, comment allez-vous éviter d'être l'établissement et d'éviter que les mêmes forces qui vous ont poussé se tournent contre vous? Et nous allons voir.
Merci beaucoup, David Axelrod.
Thank you.
Les matins de France Culture, en direct de Chicago, Guillaume Erner.
Et nous poursuivons ces matins, nous les poursuivons en direct, toujours de Chicago, au 37e étage de ce consulat général de France. À Chicago, on trouve également la fondation que Barack Obama a créée depuis son départ de la Maison Blanche, à l'instar des autres présidents américains. Écoutons le vice-président de cette fondation, Michael Strautmatis, expliquer comment il a rencontré Barack Obama.
Les matins de France Culture, en direct de Chicago, jusqu'à 9h.
I met Barack Obama for
J'ai rencontré Barack Obama pour la première fois lorsque j'étais un jeune homme. J'avais environ 22 ans, 23 ans. J'étais à Chicago. Je travaillais en tant que messager. L'année suivante, j'allais à la fac de droit, donc je ne connaissais pas d'avocat. Donc j'ai eu un emploi en tant qu'assistant juridique.
Working at a big law firm, and I introduced myself to a young lawyer named Michelle Robinson.
Je travaillais donc pour un gros cabinet juridique et je me suis présenté à une jeune avocate named Michelle Robinson.
And she introduced me to her fiancé, Barack Obama.
Elle m'a présenté à son fiancé, Barack Obama.
They became mentors and
Ce sont devenus mes mentors, mes guides, ensuite mes amis.
Et vous avez travaillé ensuite à la Maison Blanche.
After that, you worked for the White House.
Well, after that, I moved to Washington D.C.
J'ai déménagé à Washington. Je suis allé à la fac de droit. J'ai commencé à pratiquer le droit à Chicago. Et ensuite, je me suis intéressé à la politique. Je voulais apporter des changements, m'engager et améliorer l'existence de mes amis, de mes voisins, de ma famille et des questions qui étaient importantes pour la société. Ce parcours m'a amené à Washington, D.C. Et lorsque j'étais là-bas, après quelques années, mon ami m'a appelé et m'a dit qu'il allait se présenter pour un poste de sénateur dans l'Illinois. Et donc, je lui ai dit, bien sûr, que j'allais l'aider.
Et alors?
Il a gagné. Et donc, je commence à lui travailler pour lui en tant que conseiller en chef pour travailler sur des questions importantes pour la justice. Puis, il a décidé de se présenter à la présidence.
Et alors?
Then.
Well, then he won.
Puis, il a gagné.
And I began working as
J'ai commencé à travailler en en fait, aux mêmes fonctions. Il s'agissait toujours de créer ou d'essayer de créer un dialogue entre les gens qui voulaient comprendre ce que nous faisions, participer à notre œuvre. Et c'est toujours un dialogue bilatéral.
Quel type de patron était Barack Obama, Michael Strautmanis?
Un patron dur.
I've been in meetings with him and
j'ai participé à des réunions avec lui.
He starts asking questions.
Il commence à poser des questions.
And you have to be very prepared.
Il faut être vraiment préparé.
Because he wants the best out of his work. He
Parce believes qu'il veut tirer le mieux de son travail.
He has a tremendous responsibility.
Il pense qu'il a des responsabilités so énormes et donc il demande le mieux de tous ceux qui travaillent pour lui, le maximum de leurs efforts.
A caring boss.
C'est aussi un patron qui se préoccupe du bien-être de ses collaborateurs.
Works through both the head and the heart.
Quelqu'un qui utilise à la fois son cœur et sa tête.
The heart is what gets him to participate in public life.
Son cœur est ce qui l'incite à participer à la vie publique, de faire en sorte que les choses soient meilleures pour les gens. Il veut leur offrir des opportunités.
And so I find him to be
et donc,
very
je le trouve
but intellectual as well.
Sur le plan intellectuel et sur le plan du cœur, il va très loin.
Qu'est-ce qu'il fait maintenant?
What does he do now?
Well, now he is decided to.
Maintenant, il a décidé.
Take all of his ideas,
de prendre toutes ses idées,
his network,
toute son énergie, son réseau,
and apply it to
et d'appliquer tout cela à un nouveau défi, entièrement nouveau. La plupart des présidents des États-Unis, en fait, il y a une tradition moderne où vous vous retirez de la vie publique, vous prenez avec vous des gens qui sont proches de vous
et vous construisez une bibliothèque présidentielle. Et quelques années plus tard, lorsque c'est construit, c'est ouvert, vous allez à la cérémonie de découpe du ruban et vous passez au stade suivant. Le président Obama a décidé de se retirer de la politique, mais immédiatement de relever un nouveau défi, qui est comment allons-nous former et donner les pleins pouvoirs à une génération de jeunes dirigeants qui cherchent des solutions pour la communauté pour relever les défis de notre temps.
Donc ça, c'est le rôle de la Fondation Obama, dont vous êtes le vice-président, Michael Srotmanis. De qui est-elle composée, cette fondation ?
Elle se compose de nombreuses personnes. J'ai vraiment apprécié la diversité des expériences. Le PDG de la fondation, c'est un dirigeant qui s'appelle David Simas. C'est un conseiller proche de Obama, la Maison Blanche, c'était. Mais nous faisons tellement de choses qui sont nouvelles, entièrement nouvelles. Et donc, il a fallu amener une équipe de gens d'anciens et de nouveaux.
On dit que la société américaine est une société de plus en plus inégale. Et est-ce que vous trouvez que Barack Obama a réussi à lutter en partie contre cela? Et quelles sont, selon vous, les conséquences de cette société qui est aujourd'hui très inégale, Michael Strautmanis?
Vous savez, aujourd'hui, quand je reviens à Chicago après quelques années où j'ai vécu ailleurs, à Los Angeles, à Washington, je vois des inégalités qui me gênent. Et cela me remplit d'un sentiment d'urgence, parce que ce sont des êtres humains, des citoyens, qui méritent d'avoir les opportunités d'utiliser leurs talents, leurs dons, et de se bâtir une vie. Mais je pense également que ce défi de l'inégalité est un défi mondial, en fait. Nous le voyons aux États-Unis, mais je pense également qu'on peut le voir dans le monde entier, et c'est un résultat de changements rapides dans notre économie et dans nos cultures. Lorsque je travaillais à la Maison Blanche, dans le cadre de mes fonctions, je prenais part à des efforts pour mettre à jour notre structure de gouvernance, la façon dont nous travaillons, pour être en mesure de donner aux gens des opportunités de se connecter les uns aux autres, là et aux éléments les plus dynamiques de notre économie. C'est cela que nous voulions créer un réseau de sécurité pour les gens. Par exemple, la réforme de l'assurance médicale, nous voulions connecter les gens, les former pour les emplois d'aujourd'hui, de l'avenir. Nous voulions leur donner les opportunités et les outils pour construire des sociétés, des entreprises, et de travailler dans le monde entier, car le président l'a fait pendant longtemps, pour s'attaquer à ces questions à travers des coalitions multilatérales également.
Il y a un taux de criminalité très important à Chicago. Comment vous l'expliquez, Michael Strautmanis? Justement, est-ce que ce sont des enfants qui n'ont pas eu des chances égales aux autres? Est-ce que ça obéit à d'autres causes?
Vous savez, je pense que c'est un mythe. Chicago n'a pas un taux de criminalité plus élevé que d'autres villes, d'autres endroits. Mais je pense que nous avons mis le projecteur là-dessus. Et de nombreuses façons, je suis heureux que nous l'ayons fait, parce que c'est complètement inacceptable, inadmissible. La violence avec laquelle doivent vivre les gens qui vivent dans certaines collectivités, c'est inadmissible. Et donc, je pense que nous voyons que, alors que nous entendons les gens qui vivent là-bas, ce que nous voyons, c'est qu'à ce point, souvent, il y a des générations de gens dans cette ville. Et je connais des gens qui vivent dans des zones de France, à l'extérieur de Paris. Nous voyons les mêmes choses. Des enfants qui ont grandi et qui n'ont pas connu les chances, les opportunités, qui n'ont pas vu des gens qui ont investi en eux. Et malgré cela, nous vivons dans un monde tellement connecté qu'ils voient des opportunités ailleurs que d'autres peuvent avoir. Et je pense que ce contraste est inadmissible, inacceptable. Donc, ce qui m'intéresse, ce que j'aimerais faire, c'est trouver des dirigeants, des leaders dans cette ville et ailleurs qui font des choses qui marchent. Peut-être que ça marche avec 20 personnes, peut-être avec 50 personnes, peut-être 2000 personnes. Mais ce sont les choses que les autres qui veulent résoudre les mêmes problèmes de violence, de création d'opportunités pour les jeunes, ils peuvent tirer des leçons de ces leçons. Et nous pouvons créer une échelle pour être en mesure d'impacter plus de jeunes, de façon à les détourner de la violence et vers les chances, les opportunités.
Concrètement, comment vous pouvez vous y prendre, Michael Strautmanis?
Alors, je n'ai pas toutes les réponses, mais je vais vous dire ce que j'ai vu qui marche. Souvent, il y a de jeunes pères, de jeunes parents qui ont des enfants, mais qui n'ont pas tous les outils dont ils ont besoin pour être des parents efficaces. Donc, j'ai vu des programmes où les gens sont formés à travailler avec les jeunes parents pour leur offrir ce type de talent, et ça marche. Les autres activités qui ont l'air de marcher, Arnie Duncan, qui a travaillé tellement étroitement avec le président de la Maison-Blanche, il était secrétaire à l'éducation, au ministre de l'éducation. Donc Arnie Duncan a un programme ici où il a pris des jeunes hommes qui ont fait des choses horribles, mais qu'ils veulent sortir de cette existence. Et il les aide avec un travail, il leur donne 12-13 $ de l'heure pour travailler dans la construction. Mais également, il les entoure des talents dont ils n'ont pas eu l'occasion de bénéficier, savoir comment aller au travail, comment être productif dans un bureau, par exemple. Et donc, le président Obama est allé rencontrer ces jeunes hommes pour apprendre leurs expériences. Et maintenant, leur existence commence à changer de direction parce qu'ils ont de nombreuses opportunités économiques. Et de plusieurs façons, il s'agit simplement de trouver une façon de nourrir votre famille, trouver un endroit où vivre, donner aux gens des emplois, mais également des talents, des compétences, pour les tirer d'une spirale destructive.
Est-ce que vous n'avez pas peur, Michael Strautmanis, que la politique de Donald Trump casse tous vos efforts et finalement rende difficile, pour ne pas dire impossible, de venir en aide aux plus déshérités?
Je ne suis plus dans la politique, je l'étais pendant longtemps. Pour les gens qui s'intéressent à la politique et qui s'intéressent à Donald Trump, ils peuvent faire ce travail. Le défi, en fait, c'est de savoir comment créer une société civique plus dynamique, plus efficace, qui permette aux gens d'avoir des chances de participer et de résoudre leurs défis. C'est une question de leadership. C'est une question de trouver des façons de parler à des gens avec lesquels vous n'êtes pas d'accord. C'est un processus où l'on utilise nos technologies, nos vies sur l'Internet, les utiliser pour construire des collectivités et non pas pour les détruire. Et donc, en travaillant sur ces questions, le président pense que cela va avoir autant d'impact, peut-être même plus, que le travail qu'il a fait pendant 8 ans en tant que président des États-Unis.
Merci beaucoup, Michael Strautmanis.
Thank you, Michael Strautmanis.
Can I just, I have to say one thing. My father,
dire une chose. Mon père, Curtis Young, est un fils adoptif de la France. Il vit à Paris et j'aimerais lui dire bonjour. Et j'aimerais dire merci à tous les Parisiens qui ont adopté mon père. Merci beaucoup.
Bonne journée à tous et au revoir.